franceinter.fr.
Llamando a jóvenes que traiga coca.
Des tambours Bora qui résonnent à la une de la science aujourd'hui à la frontière du Pérou et de la Colombie. Bien avant le Wi-Fi, la 4G ou le téléphone, le peuple Bora d'Amazonie utilisait une forme traditionnelle de télécommunication à l'aide de percussions. Chaque village, encore aujourd'hui, est équipé de deux tambours et le Bora tambouriné permet aux habitants de transmettre des messages, paraît-il, jusqu'à 20 km de distance. Pour la première fois, une équipe de chercheurs vient de décrypter la construction rythmique de cette langue, un travail de linguiste très original. Et pour en parler, Axel, nous recevons l'un des auteurs de cette étude.
Oui, Daniel, nous sommes avec Julien Meyer qui est en direct des locaux de France Bleu à Grenoble. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes linguiste et bioacousticien pour le CNRS à l'Université Grenoble-Alpes. Et pour ces travaux, vous avez aussi collaboré avec le Museo Goldi de Belém au Brésil. Alors cette langue Bora tambourinée avait déjà été décrite par des anthropologues et des linguistes dans les années 80, mais c'est sa construction précise que vous dévoilez aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que c'est sa grammaire ?
Alors oui, il y avait eu quelques études, soit par des missionnaires, soit par des linguistes qui avaient analysé certains aspects, et nous on est allé plus en détail, là où personne n'avait cherché, c'est-à-dire comment on transforme cette parole en rythme pur et comment... Les durées entre les coups nous renseignent sur qu'est-ce qui est codé dans le langage, dans ce système tambouriné.
Alors pour rentrer directement dans le vif de vos travaux, on va écouter un extrait. D'abord les tambours joués par Manuel Rios Mieveco et puis la voix humaine, le Bora, parlé. Alors Julien Meyer, qu'est-ce qui relie les deux formes de la langue, puisque c'est bien deux formes de Bora qu'on vient d'entendre ?
Eh bien, on vient d'entendre du coup d'abord la version tambourinée, puis la version parlée par Manuel, qui nous a beaucoup aidé pour cette étude, qui est un des dépositaires et une des personnes qui a la plus grande connaissance sur ce tambour au Pérou. Du côté péruvien, puisque la population Bora est du côté Colombie et Pérou, elle est à cheval sur les deux frontières. Et, le tambour, là, ce qui limite, c'est pas juste un code pur qui dirait, par exemple, un rythme pour un mot et puis un autre rythme pour un mot, sans lien avec la parole. Mmh. Là, on copie des choses on fait un coup par syllabe, mais par contre, ce que nous on a dû chercher, c'est où est-ce que dans la syllabe, où est-ce que à quoi correspond dans la syllabe parlée le coup qui est donné en tambour. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, la durée entre deux coups dans les tambours correspond à la durée entre deux débuts de voyelles dans la parole. Et du coup, c'est pas vraiment la durée des syllabes qui est codée, c'est à cheval sur deux syllabes.
Mais Julien Meyer, pour qu'on comprenne bien, ça s'apparente à du morse ou c'est tout à fait autre chose, cette façon de parler avec un tambour, d'envoyer des messages avec un tambour?
Alors c'est pas du morse parce que le morse, il code quelque chose en passant par l'écrit. On donne un rythme pour le A, un rythme pour le B, et puis comme ça on va coder les mots. Là, c'est pas du tout ça. C'est un codage où on donne un coup par syllabe, et donc on imite acoustiquement ce qu'on ressent au niveau rythmique quand on entend la voix normale.
Alors on l'entend bien. Oui, je disais, on l'entend bien. Il y a deux tambours, un aigu et un grave. Est-ce que c'est pour reproduire une partie de la langue parlée ?
Également, oui. Alors c'est clair que la partie sur les hauteurs avait déjà été un peu décrite, et puis elle a été décrite dans d'autres systèmes tambourinés qui existent un peu partout. Ce qui existait, ce qui n'existait pas comme description, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Mais c'est vrai que là, comme on a une langue tonale, on a remarqué que à 100%, chaque syllabe, elle porte soit un ton haut, soit un ton bas. Bah, à 100%, le tambour, il va soit jouer le ton haut sur le gros tambour, qui est le tambour femelle, d'après la tradition Bora, le ton bas, il est joué sur le gros tambour, et le ton haut, il est joué sur le petit tambour. Comme la caisse de résonance est plus petite, le son est plus aigu.
Au passage, on apprend qu'il y a un tambour mâle et un tambour femelle. Ça apporte quelque chose, ça, dans la discussion ?
Ben, en fait, c'est dans la tradition Bora, il y a deux... Il y a le mâle et la femelle qui permettent, d'après les mythes que moi j'ai entendus quand je suis allé là-bas et que j'ai posé des questions sur ça, le mythe dit que pour recréer la complexité du monde avec le langage, eh ben, c'est bien d'avoir un mâle et une femelle, comme dans la nature en général, pour créer cette complexité.
Est-ce qu'on sait, Julien Meyer, depuis quand les tambours sont utilisés comme moyen de communication en Amazonie ?
Ce qu'on sait, c'est que c'est très ancien, c'est un système de télécommunication très ancien. Ce qui est intéressant, c'est que là, il nous apporte des choses nouvelles sur des découvertes nouvelles pour l'analyse du langage et de son rythme, qui est une des parties les plus compliquées à analyser. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'autrefois, il y a 100 ans environ, tous les hommes d'un village savaient jouer sur ce tambour et pouvaient y aller, puisqu'il y en a un par village, dans une maison ronde qui est la maloka, la maison centrale, et pouvaient passer des messages à partir de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes qui savent le faire. Et ce qu'on sait aussi, c'est que dans des écrits d'explorateurs du siècle dernier, mais du début du siècle, il y a des gens qui décrivent des choses très intéressantes où, par exemple, les gens arrivaient en canoë. Il y avait comme un petit tambour en kit qu'on dépliait dans le canoë. C'est-à-dire, on mettait des planches et on faisait ces deux hauteurs avec des planches. Alors, c'est pas décrit chez les Bora, mais c'est dans d'autres populations. Et puis, on signalait qu'on arrivait, parce qu'on arrivait avec quelqu'un. Là, c'était un Européen qui était dans le bateau. Il fallait demander l'autorisation de venir dormir dans un village. Et la réponse venait en disant, par exemple, c'est ce qui est décrit dans ce papier qu'on cite, nous, dans notre publication. Il dit, vous pouvez venir, mais mettez vos armes en bas, à l'arrière du canoë quand vous arrivez. Et puis... Et puis approcher doucement, ouais. Et puis nous, on sera là pour vous accueillir.
Ça permet de montrer patte blanche, en quelque sorte, Axel.
Oui, c'était des communications officielles. Et d'ailleurs, on va en écouter encore des tambours Bora avec une annonce officielle. Le tambourinaire annonce la mort d'une personne. On va s'arrêter là parce que le message est répété, on l'entend. Est-ce que vous pouvez vous-même nous traduire le message qu'on entend, Julien Meyer ?
Alors, celui-ci, je ne l'ai pas en mémoire. C'était celui d'avant que j'avais bien en mémoire.
Alors, vous pouvez nous traduire celui que vous aviez compris à l'extrait d'avant. C'est vrai que vous n'avez pas appris à tambouriner vous-même.
Non, j'aimerais bien développer ça en français, mais c'est un long chemin. Alors, et du coup, le message d'avant, il était découpé en plusieurs parties de manière didactique. C'est celui que j'utilise souvent dans les présentations. Et on a une première partie qui montre qu'il y a un appel qui veut dire venez. Hein, l'appel peut être pour autre chose. Il peut dire il y a une réunion, il y a une fête. Là, c'était venez maintenant. Et l'autre, c'était ensuite la deuxième partie. C'était généralement il y a une autre partie que j'avais enlevée. Qui est l'adresse, à qui on s'adresse. C'est parce que, bon, comme tout le monde peut l'entendre, il faut dire la personne à qui on s'adresse ou le groupe à qui on s'adresse. Et puis ensuite, là, ce que vous avez entendu, c'était pour faire griller des feuilles de coca.
Ah oui, c'est très précis, c'est très précis. On peut dire vraiment des choses très précises avec un tambour. Merci, Julien Meyer, de nous avoir fait découvrir cette langue tambourinée qui nous vient d'Amazonie. Un grand merci à vous et merci aussi au studio de France Bleu du côté de Grenoble. Merci à vous, Axel Villard, et à très bientôt.
À bientôt.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la méga-fusion de 14 galaxies publiée par la revue Nature, la découverte de cette structure immense dans notre univers, laisse les astronomes perplexes. Situé à 13 milliards d'années-lumière de nous, cet amas de galaxies, appelé aussi supercluster, est le siège d'une création d'étoiles ultra-rapide, tant la matière y est brassée et condensée. Les chercheurs estiment que les étoiles s'y formeraient jusqu'à 1000 fois plus vite que dans la Voie lactée. Seul problème, les théories actuelles sur la formation de l'univers explique difficilement comment une structure aussi grande a pu apparaître à ce stade. Une raison supplémentaire pour continuer à l'étudier. De nouvelles inquiétudes autour du Gulf Stream. Ce courant marin de l'Atlantique est en grande partie responsable du climat tempéré en Europe. Deux études cette semaine annoncent en effet que le système de courant océanique de l'Atlantique Nord, qui comprend notamment le Gulf Stream, s'affaiblit. En cause, les glaces de l'Arctique qui fondent massivement et libèrent de grandes quantités d'eau douce en surface. Celles-ci ont de plus en plus de mal à plonger en profondeur et maintenir ce courant actif. Des changements qui auront, selon les chercheurs, des conséquences sur les températures en Europe, mais aussi sur la distribution du plancton et des espèces de poissons et d'oiseaux de l'océan Atlantique. Et pour terminer, une partie de chasse qui s'est tenue il y a 15 000 ans. Des archéologues de l'université de Stanford décrivent une série d'empreintes de pas particulièrement rarissimes, laissées dans la vase des bords d'un lac au Nouveau-Mexique. Voici précisément ce que les chercheurs pensent avoir compris. Un paresseux géant, une bête velue d'environ une tonne, errait le long de la rive. Quelque chose l'a effrayé, il s'est dressé sur ses pattes arrière et a frappé ses attaquants qui ont disparu. En regardant plus précisément le sol, les archéologues ont découvert ensuite des traces de pas humains. Pour eux, aucun doute, il s'agit d'une partie de chasse parfaitement enregistrée dans le sol et malheureusement funeste pour le paresseux.